l'artiste belge passait ses mois de juillet en vacances, puis tardivement le cyclocrossman pédaleur de l'hiver est passé sur la route ce vendredi 10 juillet à Bordeaux. À l'âge de 33 ans, Tim Merlier a éteint la concurrence dans la famille des sprinteurs. Est-ce que le trentenaire est aujourd'hui le meilleur au monde dans l'exercice? Et si un sprinteur s'est imposé, c'est que l'échappée n'est pas allée au bout. Enfin, une échappée de baroudeurs plus exactement, et parmi eux encore le français Baptiste Westhoffer. Avec nos consultants, on reviendra sur ce sprint, sur les échappées mal aimées, les jours d'explication entre les gros Suisses. Et avant le deuxième week-end de ce Tour de France, on dressera le tableau des forces en présence côté français. C'est l'after sans dérailleur, que du bonheur.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France aujourd'hui, après les Pyrénées, direction Bordeaux, direction la canicule qui ne lâche pas d'une semelle le Tour de France. Il fait plus de 30 degrés déjà à 14h et on attend des températures qui vont monter à 37-38, que ce soit sur la route ou dans le camion RMC. On a battu notre record nous aussi hier, 38 degrés pendant 4h, c'était bien, et je pense qu'aujourd'hui à Bordeaux on peut monter encore un peu plus haut. C'est comme ça, c'est la canicule, on s'arrose. Sa petite visite annuelle, c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Il est là, fidèle au poste. Il vient tous les ans nous rendre visite. Bernard Hinault est avec nous. Salut Bernard. Salut. Toujours un plaisir. Voilà.
Ah ouais, pour moi
de
aussi.
Te voir, c'est toujours sympa.
De côtoyer un peu les copains, parce qu'on ne se voit pas trop souvent. Donc.
On espère qu'un petit Français aura le maillot blanc. Le maillot jaune, ça va être dur. Hein. Le
maillot jaune, c'est pas possible. Avec l'autre, c'est une moto.
Il est presque obligé d'être là pour gagner. Il n'est pas là pour apprendre sur le tour. S'il avait fait le Tour d'Italie, à l'occasion, il dit, bon, il prenait une claque. S'il prend une claque là, les gens, ah oui, mais tout de suite, hop, suspicion. Il n'est pas aussi bon qu'on pensait. Alors que s'il avait été au Tour d'Italie, il a dit, ben non, je suis là pour apprendre. Et puis tu le dis au départ. Tu dis, moi, je suis là pour apprendre, je vais voir. Est-ce que Paul, il est déjà au maximum de ses capacités?
Il faut espérer que non.
Ben non, mais personne ne le sait vraiment.
RMC, la flamme rouge.
Et ça joue des épaules encore. On voyait Clément Russo à l'instant avec un coureur de l'équipe de Tim Merlier en deuxième rideau. Tim Merlier, alors que pour Olaf Koy, ça se rapproche tranquillement pour les Alpecines. C'est parti sur la droite de la route. On va essayer de déposer au mieux Jasper Philipsen. Il y a un coureur de l'équipe Carrara-Rural qui est également bien placé. C'est Fernando Gaviria juste devant. Il y a Binyam Girmay juste derrière lui et Tim Merlier. Les Alpecines sont parfait pour le moment pour emmener Jasper Philipsen qui est lancé. Cette fois, c'est lui, le poisson pilote. Attention avec Fernando Gaviria qui est sur la droite de la route. Gaviria qui est pas mal. Il y a aussi Warren Scholl au centre de l'écran. Warren Scholl au centre de la route. Et Tim Merlier qui va pouvoir s'imposer. Tim Merlier qui s'impose devant Binyam Girmay. Et Warren Scholl en troisième position. Jasper Philipsen n'a pas pu poser. Bonjour à tous, on a pu profiter de cette longue après-midi, vous l'avez reconnu, pour écouter Bernard Hinault et pour vivre donc ce sprint. Nos spécialistes sont autour de la table de l'After Tour, GG et GG, Monsieur Coppel et Pinault, bonjour.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous.
Dans la chaleur de Bordeaux, à distance, Richard Virin qui est en notre compagnie également, bonjour Richard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Christophe Cessieux est toujours à nos côtés après avoir animé toute cet après-midi. Salut Christophe.
Salut les copains.
Richard, on revient dans quelques instants avec toi, mais on profite de l'actualité pour partir du côté de l'équipe Décathlon avec CMA-CGM, avec notre reporter Léna Marjac qui est juste à côté de cette équipe. Alors, ils sont plus ici sur la ligne d'arrivée au Quinconce. Ils sont partis à l'autre hôtel, à leur hôtel. Bonsoir Léna.
Bonsoir tout le monde.
Mais néanmoins, tu as vécu cette arrivée tout à l'heure auprès de cette équipe. Et c'était une ambiance un peu particulière, un petit peu peut-être différente des autres jours aujourd'hui à Bordeaux.
C'est vrai que ça fait une semaine que je suis tous les soirs au bus Décathlon CMA-CGM, mais jusqu'alors c'était assez calme. Mais ce soir on a passé un palier parce que là il y avait clairement une centaine de personnes présentes ce soir avec des maillots Décathlon CMA-CGM, des pancartes pour un seul homme. Évidemment Paul Sexas qui est apparu après cette étape, il est venu faire une petite dizaine de minutes de home trainer sous les caméras, sous les téléphones portables qui étaient tous allumés pour immortaliser le moment. Et évidemment il a fait des heureux, écoutez justement ces deux supporters que j'ai pu rencontrer.
On supporte assez Paul Sexas, oui.
J'aime bien le coureur, j'aime bien le type de coureur. Ça fait toujours spécial de voir les personnes qu'on idolâtre tant devant la télé et de les voir en vrai, là, à 2 mètres de nous, c'est quelque chose quand même.
Ce qu'il a réussi à réaliser déjà cette saison, en gagnant la Flèche Wallonne et en tenant tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, je trouve que c'est assez impressionnant, et même ce qu'il a réussi à réaliser hier sur le Tourmalet.
Je suis supporter depuis plus d'un an maintenant. On voit qu'il est bien motivé, bien focus, bien concentré. On a beaucoup apprécié aussi le fait qu'il vienne signer les autographes pendant 3-4 minutes, c'est pas rien. On sait que ça dure 3 semaines, un tour. Il faut être concentré, mais il prend ce temps-là dès la première année, c'est vraiment cool.
Alors, il n'y a pas eu du bruit énorme. Ça a été vraiment des encouragements assez légers ce soir. Mais c'est vraiment la première fois qu'on voit autant de monde. Ça va dans tous les âges. Des plus anciens, des fans de vélo, des parents comme vous venez d'entendre. Mais aussi des tout petits. J'ai rencontré peut-être le plus mignon des supporters de Paul Sexas. Est-ce que je peux avoir ton prénom ?
Léo.
Léo ? Ouais. T'as quel âge ?
3 ans.
Est-ce que tu connais Paul Sexas, toi ?
Oui.
Ouais ? Tu le connais parce qu'il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait, Paul ?
Il pédale.
Voilà, il pédale Paul et il fait rêver surtout beaucoup de petits jeunes qui étaient là ce soir, et ça fait plaisir parce que ça y est, je pense qu'enfin on entre dans cette fameuse Sexasmania qu'on attendait tant, et ce soir ça a été déjà une première image de tout cet engouement autour du coureur français de 19 ans de la Décathlon CMA-CGM.
C'est normal, ah, oui. Paul répond présent.
Oui, c'est sûr, Léna, on va l'écouter, Julien Jourdi, dans un instant. Mais c'est sûr, Léna, que si il a des fans qui ont 3 ans, qu'il fait une quinzaine d'années, bah voilà, à 18 ans, ils vont le suivre, ceux-là, hein, pendant toute leur jeunesse, et ça sera leur champion. Oui, bien sûr.
Les vocations, ça démarre comme ça, hein, ça démarre comme ça. C'est en suivant avec des yeux d'enfant quelqu'un qui te donne envie d'aller faire la même chose plus tard. Donc,
est-ce que tu allais encourager Richard Virenque quand il était coureur ?
Moi, je suivais pas trop le vélo, mais j'avais une idole dans le vélo, c'était Richard. C'est vrai, j'avais les
pancartes
quand j'allais. J'avais pas le poster, j'avais un poster de skieur, moi, mais quand j'allais sur le bord des routes, j'avais une seule pancarte, c'était Richard Virenque.
Richard, tu te souviens, toi, du moment où ça a commencé vraiment cette Virenque mania à l'époque ?
Ouais, ça a commencé au tour 92, mon premier tour, au bout de la troisième étape. C'est que quand j'ai eu le maillot jaune, le lendemain, je sais pas, les gens me regardaient différemment. Ma vie a changé du jour au lendemain. Donc, et après, quand je suis rentré, après le Tour de France 92, je suis arrivé dans mon village. Là, j'étais plus important que le maire de mon village. Donc là c'était bizarre.
Mais oui, voilà. Mais alors, il y avait quand même une différence de personnalité entre Richard et Paul. C'est une autre époque. Richard, c'est la spontanéité. Je me rappelle de tes premières interviews. T'avais dédié ta victoire à ta fiancée de l'époque. T'étais tout sourire. Paul, voilà.
J'avais 21 ans.
C'est pas le même mec. Hein,
Bon, j'avais 21 ans. Hein, donc moi, j'avais une fiancée.
Ah,
Paul,
pas bien vieux, hein.
Ouais, non, mais bon, Paul, il a déjà commencé aussi. Non, mais bon. Mais bon, voilà, moi, je venais du Var. Donc, vous savez, en étant varois, Paul, il vient de Lyon. C'est peut-être plus une, on va dire, une, comment je pourrais dire, un endroit où on fait plus de vélo. Le vélo est beaucoup plus, on va dire, respecté. Moi, à l'époque, je venais du Var. Franchement, tous les gens qui me disaient, tu fais, à part Lucien Aymar à l'époque qui avait fait du vélo, mais il n'y avait pas de gens qui faisaient du vélo dans le Var. Ils me disaient, t'es fou de faire du vélo dans le Var.
Donc, ouais, mais faut dire que t'avais pas le physique pour jouer au RC Toulon non plus. Hein.
Non. Je savais pas, mais bon, c'était la, on va dire le vélo, la montagne qui me plaisait. J'allais dans l'arrière pays varois, et voilà. Donc pour parler de l'étincelle quand d'un coup, et c'est le Tour de France. Hein. Le Tour de France, ça a démultiplié la notoriété, la popularité. Et à chaque fois que je faisais une perf, ça va amplifier. Là, Paul Sexas, il démarre. Ça démarre comme ça, mais c'est pas fini pour lui, hein, parce que s'il commence à faire des vraies étincelles, à gagner une étape, à prendre un maillot distinctif et à faire rêver les gens, moi j'ai vécu des moments incroyables et je pense qu'il va en vivre aussi, hein, donc
c'est tout ce que l'espère. Je lui souhaite. Ouais, exactement, c'est ce qu'on espère. Et Léna sera aux premières loges. Léna Marjac, merci beaucoup Léna, parce que je crois que tu pars sur un autre reportage là. Tu as visité un bus?
Non, le bus sera pour demain. Ce soir, je vais faire la récupération avec la cryothérapie pour les coureurs.
Ah, là, c'est le jour où faire de la cryothérapie, ça va être agréable. Hein.
Ah bah oui, puis même moi, si je peux me rafraîchir un peu, je suis preneuse.
Non, non, on reste professionnel jusqu'au bout, Léna. Merci beaucoup, on te retrouve demain, évidemment, sur les ondes ou sur la radio digitale, sur 100% route, pour suivre tout ce Tour de France 2026. Voilà, c'était la petite photographie de ce début d'After Tour autour de la Sexas Mania, mais on écoute quand même Julien Jourdi qui vient faire la conclusion de ce petit thème pour ouvrir l'After Tour. Julien Jourdi.
C'est normal, hein, Paul répond présent, on voit qu'il est très encouragé sur le bord des routes. Donc c'est tout un fait logique, on arrive dans une grande ville, donc forcément une ville touristique aussi, donc beaucoup de monde. Donc forcément, l'équipe est reconnue maintenant au niveau national, au niveau international, donc ça ne m'étonne pas du tout de voir autant de monde autour du bus. Et j'espère qu'il y en aura encore plus jusqu'à Paris, parce que ça sera plutôt bon signe. Il y a beaucoup de maillots de l'équipe Décathlon CMA-CGM, également beaucoup de pancartes avec Paul, hein, ça c'est une certitude, donc on le ressent forcément depuis le départ du Tour. Voilà, une fois de plus, c'est tout à fait logique par rapport à son début de saison, sa médiatisation qui est présente, hein, et c'est une bonne chose, hein, c'est important d'avoir aussi des cyclistes en tête de gondole, hein, Léon Marchand, tout ça. Et je pense que Paul est de ce niveau-là, donc c'est important d'avoir un représentant qui nous représente, nous, le monde du vélo.
Voilà, c'est l'avenir, évidemment. Paul Sexas avec Julien Jourdi, son directeur sportif. On en vient à notre premier thème du jour. Tim Merlier remporte donc le deuxième round du côté des sprinteurs. Et est-ce qu'il est le meilleur au monde dans cet exercice? Et malgré son âge, je le rappelais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est venu très tardivement dans le milieu professionnel. C'est d'abord un cyclocrossman. Avant de débattre entre nous, Christophe, on va peut-être rappeler les classements de cette étape et ça nous donnera un petit peu un ordre d'idées aussi de ceux. Alors c'est toujours demain, ça sera peut-être différent, mais voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est lui qui a été le premier sur la ligne à Bordeaux.
Ah oui. Sans aucune bavure, il s'est imposé largement. Tim Merlier, donc le coureur belge de la formation Soudal-Step, qui avait terminé troisième à Pau avant-hier, il s'impose devant le Norvégien Warren Fjeld de la formation UnoX. Binyan Girmay, ancien maillot vert, termine troisième. Kanter quatrième et Jasper Philipsen, c'est pour moi la grosse déception de ce début de tour dans les sprints, à peine cinquième. Le premier français, c'est Dorian Godon qui termine huitième. C'est pas vraiment un sprint comme il les aime. Il préfère en plus petit comité et un peu plus accessible. Accidenté. Puis Mats Pedersen, le maillot vert, termine 9e. Voilà donc pour les principaux favoris du sprint. Et puis on pense aussi à Olaf Koy qui avait décroché l'étape avant-hier. Bah, lui, il termine beaucoup plus loin. Il n'est que 23e de l'étape aujourd'hui.
On réécoutera d'ailleurs Julien Jourdi, le directeur sportif de cette équipe, qui était déçu évidemment pour Olaf Koy. Et puis on parlera bien sûr, comme tu l'évoquais, la petite déception autour de Jasper Philipsen. Mais donc on avait eu Olaf Koy. Et Merlier, troisième, cette fois, c'est lui qui s'impose. Richard, dans cet exercice, est-ce que tu as le sentiment, parce que là, c'était quand même beaucoup plus propre qu'avant-hier, que c'est lui le plus fort sur ce peloton, sur ce Tour de France, et qu'il risque d'être le vainqueur sur les sprints quand on fera le bilan final à l'arrivée sur les champs?
C'est bien possible. Bon, il a gagné avec plus d'un vélo d'avance. C'est pour montrer un peu la puissance qu'il avait. Ça veut dire quelque chose. Bon, si on regarde le sprint de hier, c'était Olaf Koy, il a gagné aussi avant-hier. Avec une grosse aisance, avant-hier plutôt. C'était beaucoup plus brouillon. Il reste encore des sprints comme demain, après-demain. Je pense qu'on pourra se dire que c'est le meilleur s'il en a gagné 2-3 de suite. Là, oui. Comme certains, comme Mark Cavendish qui marquait je pense qu'il faut encore attendre, c'est encore un peu tôt pour dire que c'est le meilleur, mais en tout cas à 33 ans, gagner la quatrième étape de Tour de France, il est arrivé sur le tard. L'équipe Soudal Cruz-Step a réussi déjà son tour, hein, donc il s'était venu pour gagner une étape, c'est chose faite.
Ouais, voilà, il y a déjà deux équipes qui ont gagné sur les sprints. Jérôme Coppel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que Tim Merlier, il a quand même 33 ans, on en parlera, Jasper Philipsen, il a 5 ans de moins. On pourrait imaginer qu'il y a un moment où la transition se fait. Et on parlera avec toi, Jérôme Pinot, de Mark Cavendish, qui a gagné très tardivement. C'était peut-être un avantage pour lui d'arriver tard.
Alors, un avantage, je ne sais pas. C'est toujours difficile avec les sprinteurs. Ça tourne assez vite. On n'a plus une période où, comme Marc Cavendish a dominé pendant très longtemps, ou Cipollini avant, ou Petacchi, etc. Une année, on se dit, bah, c'est Philipsen. Il en a gagné 3 ou 4. Puis l'année d'après, bah, c'est plus le même sur le Tour qui domine autant. Donc, difficile de dire lequel est le meilleur actuellement. Parce qu'un sprinteur, enfin, les sprinteurs, c'est des animaux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner, c'est franchir la ligne en premier. Et là, comme l'a dit Richard, bah, à la fin du tour, on verra lequel des sprinteurs a gagné le plus d'étapes. Et là, on dira peut-être que Tim Merlier est le meilleur sprinteur du monde. Maintenant, sans aller jusque-là, pour moi, Tim Merlier, il l'a montré aujourd'hui et avant-hier, quand Olaf Koy gagne, c'est ce que j'ai vu aussi, même s'il n'y avait pas la victoire au bout, c'est intrinsèquement le plus rapide du peloton en vitesse pure. Il fait que troisième le jour où Olaf Koy gagne, mais le sprint était vraiment chaotique. C'est lui qui remonte le plus fort, et s'il y a 150 mètres de plus, peut-être qu'il mange Olaf Koy. Et aujourd'hui, une arrivée sans trop de problèmes pour aucun sprinteur, bah, il met de vélo à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il est le meilleur du monde. Est-ce que le fait d'arriver tard sur la route, ça l'aide à durer un peu plus longtemps? En tout cas, mentalement, il va saturer un petit peu moins vite. Quand tu passes pro à 20 ans et que tu prends tous les risques, ensuite, souvent, tu as la vie de famille qui arrive, tu as des enfants. Dès que les sprinteurs, ils ont des enfants, souvent, bah, tu es un peu plus sur les freins, tu n'es plus tout seul. Oui, ça va certainement lui permettre de durer un petit peu plus longtemps.
Et Jérôme, toi, tu as connu Marc Cavendish qui a gagné très tardivement. Tu as connu Brian Coquard aussi. Tu as côtoyé des sprinteurs assez souvent dans ta carrière. J'ai envie de dire, ne me parlez pas d'âge.
Non, il n'y a pas d'âge. Comme l'a dit Jérôme, je pense que c'est un doux mélange de maturité, de placement, de sérénité. Parfois, un jeune coureur qui va très vite, va être fougueux, va faire beaucoup d'erreurs, va faire des erreurs dans un sprint, parfois en faire tomber certains. Il ne faut pas oublier que Jasper Philipsen souffre aussi et essaye de sortir de cette image d'un coureur et d'un sprinteur un peu chaotique qui faisait tomber les autres, limite, ou, ouais, qui était limite. Donc, c'est difficile aussi de sortir de ça. Puis, je crois que Merlier est arrivé sur le tard avec un gros bagage, celui du cyclocross. Ça l'aide à se placer. Il a, pour moi, c'est pas le meilleur sprinteur du monde, mais il a la plus belle pointe de vitesse du peloton. Maintenant, il faut qu'il arrive placé, et dans ses prises de risque, il est toujours très serein, je trouve. Soit ça s'ouvre et il y va, mais Merlier ne fait jamais des sprints à la limite. Soit il gagne parce qu'il est placé comme il faut, soit il va faire dixième parce qu'il n'aura pas pris le risque. Ça, c'est le signe d'un coureur de 30 ans. Maintenant, est-ce qu'il va durer plus longtemps? On n'en sait rien, et comme le dit Jérôme, c'est un peu partout pareil, ça tourne très vite chez les sprinteurs. Certains, ils vont durer 5-6 ans. Moi, Marc Cavendish a duré longtemps, mais il y a eu des phases où il gagnait plus du tout. Il a émergé avec cette bataille, cette concurrence en interne, voire cette haine que les médias avaient montée entre, d'un côté, Greipel, de l'autre côté, Cavendish. Et puis derrière, il a eu des soucis de santé. Ça a duré longtemps parce qu'il a eu des hauts et des bas. Et c'est souvent le cas chez les sprinteurs. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même une jeune génération qui va très vite. On voit souvent les mêmes. Il y a peu d'absents sur le tour, mais il y a quand même un Paul Magnier qui n'est pas là et qui peut demain effacer Merlier de ce statut-là, parce que s'il reste dans la même équipe, il faudra faire des choix.
Après, Tim Merlier, c'est vraiment un homme de sprint de grand tour. Hein. Son palmarès dans les classiques est loin d'être le même que Philipsen. Philipsen, c'est quand même deux fois deuxième sur Paris-Roubaix, victoire sur Milan-San Remo. Il est capable de briller ailleurs que sur les étapes du Tour de France ou du Tour d'Italie. Merlier, pour l'instant, il y a effectivement eu sa carrière en cyclocross, et depuis c'est les grands tours, mais on l'a jamais vu briller sur une grande course, sur une grande classique.
Et c'est ça qui est un peu surprenant avec Merlier. Déjà, je sais pas à quel moment il s'est rendu compte qu'il allait vraiment vite sur la route, parce que quand tu viens du cyclocross, tu te rends pas vraiment compte, ouais, si t'es rapide au sprint. C'est pas l'endroit, c'est une heure ou 45 minutes au seuil, c'est pas vraiment le sprint. Et après, avec ce passé de cyclocrossman et le bagage technique qu'il avait, on s'est dit, bah, sur les classiques il va forcément être très bon. Et en fait, un sprint d'un jour au bout de 250 km comme à Paris-Roubaix ou au Tour des Flandres, bah, c'est pas pareil qu'un sprint sur le tour où t'enchaînes les étapes. C'est un peu la même chose que les rouleurs. T'as des rouleurs qui sont très bons sur des chronos d'un jour. T'en as qui sont bons partout, Remco Evenepoel, mais par exemple Tadej Pogacar est pas très bon sur les chronos d'un jour, il est très bon sur les chronos des grands tours par exemple. Bah, les sprinteurs, c'est pareil, et c'est vrai que Tim Merlier, il a une trajectoire qui est un peu surprenante, mais t'as raison, c'est un sprinteur de grands tours, ou en tout cas de course par étape.
On va l'écouter, tiens, justement, Tim Merlier après l'arrivée ici à Bordeaux.
We don't know how far it was, but yeah, it was a mess.
Ouais, quand je suis sorti, je ne sais pas vraiment où on en était, ou combien, comment j'étais loin. Mais c'est cool, on l'a fait, on a réussi, c'était un super travail d'équipe. Après tout le travail qu'ils ont fait il y a deux jours à Pau et aujourd'hui, nous les étions les deux seules équipes avec Alpecin de vouloir rentrer, avoir roulé, après notre responsabilité. Et c'est bien parce que c'est une autre équipe qui gagne. À un moment donné, je les ai perdus et je me suis dit, ah là là, je suis dans un bazar, un casino, et je dois absolument revenir dans la route d'Jasper. Et j'ai eu d'un coup un petit trou, un peu plus d'espace pour me replacer à 600 mètres à peu près. Et puis une fois que je me suis replacé, alors là je me suis dit, je vais me battre jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne. C'est actuellement mon troisième Tour de France. Et à chaque fois que j'y ai participé, j'ai gagné. Et ça me rend très fier.
Et c'est peut-être pas fini, on verra ça. Peut-être dès demain, la possibilité pour lui de s'imposer. Richard, est-ce que tu avais aussi un œil, puisqu'on en avait parlé dès avant-hier, après la victoire de Olaf Coy, sur le coureur de l'équipe Décathlon CMA-CGM, en te disant, bon, lui, il en a claqué une, il doit être un peu détendu. On l'a vu partir sur la gauche de la route, un peu seul, et puis pédaler dans la foule. Tu as été un peu déçu ?
Je pense qu'il lui manquait un vrai poisson pilote et c'est ça les sprinteurs, hein, où ils sont dans la bonne vague, ou alors ils se font opérer, enfermer. Je pense que Olaf Coy était pas où il fallait. Et voilà, donc c'est un jour où ça passe, un jour ça passe pas. Et voilà, donc ça réussit pas à tous les coups. Je pense que j'aimerais bien voir, en tout cas dans les prochains jours, tous les sprinteurs à se battre. Voilà, ce qu'on parle à l'un côté de l'autre, à 200 mètres de la ligne, et voir quel est le plus fort, quoi.
Peut-être ta lecture, Jérôme Coppel, quand je dis qu'il était sur la gauche de la route, c'est Kisbol qu'on voit sur la gauche de la route. Lui, il s'est fait un peu enfermer, en fait.
C'est ça, lui, il était à droite de la route, et on revoit bien l'image de Gaviria et Philipsen qui se tamponnent, et lui, il est 2-3 positions derrière, à ras les barrières, et là, c'est terminé. D'une, il perd la vitesse, et deux, il n'a surtout pas d'ouverture pour sortir de la boule et lancer son sprint. Quoi, après, il a dévissé complètement, il s'est relevé, c'est pour ça qu'il fait 23e. Je pense que l'erreur qu'il fait, et Kisbol était plutôt bien placé. Kisbol remonte pour aller, comme s'il a Coy dans la roue, pour aller le replacer dans la roue de Philipsen, justement. Et là, il y va pas, Olaf Coy, alors qu'il a la place, hein, pour y aller. Il peut le suivre, mais il veut pas faire l'effort. Il décide de rester là, et ensuite la porte se ferme et c'est fermé.
Dans ce genre de sprint, Marc, il disait toujours que c'est comme un grimpeur qui attaque à 5 bornes ou celui qui attaque au kilomètre. C'est-à-dire que celui qui va prendre les extérieurs, qui va se dégager et qui va se dire, de toute façon, j'ai les cannes, je vais foncer. Lui, il se fait jamais piéger. En revanche, quand tu es un peu limite, tu vas chercher le passage où il n'y a pas la place, tu vas aller le long des barrières, tu vas suivre la roue jusqu'au dernier moment et rester bloqué parce que tu n'as pas les jambes, parce que tu n'as pas l'énergie. Tu ne prends pas le risque de trop loin parce que tu n'as pas les cannes. Là, Merlier clairement a eu les cannes, il savait qu'il était fort.
Il était déjà dans le vent un peu avant.
Ouais, il a pris le vent aux 600 mètres déjà. Et lui n'avait pas un gros lead-out. Alors que Kisbol a fait un super lead-out pour Olaf Coy, mais je pense qu'Olaf Coy était pas sûr de ses canettes et de ses jambes, et il est allé dans la boule jusqu'au dernier moment, et quelque part il est allé se mettre là où il savait que ça allait pas passer, comme Gaviria où il va sprinter le long des barrières, il sait qu'il passera pas là. Mais ça, c'est plutôt le signe de ce jour, hein. C'est pas la photographie de tous les jours, mais c'est plus la photo d'aujourd'hui. Il y avait pas les jambes qu'il fallait pour déboîter et gagner.
C'est aussi la photo aujourd'hui à l'arrivée du côté du bus Décathlon CMA-CGM avec son directeur sportif Julien Jourdi.
Bah, en termes de résultats, on espérait un petit peu mieux, 23e pour Olaf. Forcément, ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais bon, malgré tout, il y a eu une bonne approche, il y a eu un bon collectif autour d'Olaf, autour de Paul également, parce qu'il ne faut pas oublier Paul durant ces étapes-là. Donc voilà, donc forcément un petit peu de frustration, mais on sait que c'est la vie des sprinteurs, hein, ça ne réussit pas à chaque fois, il s'est fait un peu enfermer à droite. Voilà, c'est difficile, la route n'était pas spécialement large, j'ai trouvé dans le final, on savait bien sûr avant ça. Voilà, donc forcément un petit peu de frustration, mais voilà, le principal, on s'est battu, on n'a pas fait d'erreur, c'est une fois de plus, c'est les circonstances de course qui font que Olaf s'est trouvé bloqué à un moment donné.
Alors même si le classement est meilleur, il y a encore sans doute plus de frustration dans l'équipe de Jasper Philipsen, parce qu'il est quand même plutôt bien emmené. Maria Azé, tu nous as rejoint. Bonsoir Maria.
Bonsoir Thierry, bonsoir.
On imagine que là on fait un peu la soupe à la grimace, parce que c'était la deuxième occasion pour Jasper Philipsen, qui a quand même la cote. En tout cas, beaucoup de pronostiqueurs le voyaient, pourquoi pas, s'imposer déjà au moins une fois sur ce Tour de France avant aujourd'hui. Pour l'instant, il n'a pas réussi à la mettre au fond.
Oui, et puis on trouvait un peu des excuses côté Alpecin après la première étape, celle remportée par Olaf Koy, en disant qu'il y avait eu des chutes, que ça avait un peu désorganisé tout le monde. Là, c'est un peu difficile de se trouver des excuses, le constat est très clair hein. Sous la flamme rouge, Philipsen est très très bien emmené par son train, il a encore deux coéquipiers avec lui, il s'écarte un peu tôt, mais le constat c'est vraiment qu'à la force Jasper Philipsen n'arrive pas à battre Tim Merlier, il y a plusieurs même sprinteurs devant lui, donc Alpecin est bien en dessous des attentes depuis ce début de Tour de France, zéro étape cette année après sept étapes, alors qu'ils ont eu quand même au moins trois chances de briller, on va dire Philipsen avec la cinquième étape où il termine cinquième, encore cinquième aujourd'hui de l'étape 7, et Mathieu Van Der Poel qui n'a pas gagné non plus depuis le début du Tour de France. On aurait pu imaginer qu'il pouvait viser la deuxième étape hein, et l'arrivée, la deuxième arrivée à Barcelone, il termine 22e alors qu'ils ont gagné trois étapes, on le rappelle, l'année dernière les Alpecin après le Tour de France 2025, une étape pour Philipsen, une étape pour Van Der Poel et une étape pour Groves. Voilà, donc c'est pas un début de tour très bon pour Alpecin. Il va falloir clairement se rattraper demain. On a une nouvelle étape de sprint demain. Et là, pour le coup, Jasper Philipsen sera vraiment attendu au tournant.
Richard, on a aussi évoqué pendant le direct tout à l'heure les saisons qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on l'a dit, Olaf Koy, il a eu un début de saison très compliqué. Donc peut-être qu'il arrive un peu plus frais. C'est peut-être aussi un peu le cas de Tim Merlier. Est-ce que ça peut jouer, selon toi, tous les mois, les semaines qui précèdent, et que c'est peut-être ça que paye un peu Jasper Philipsen?
Oui, je pense totalement. Pourquoi? Parce que cette année, on est dans une année sur le Tour de France de chaleur. Et la chaleur, il faut de la fraîcheur physique, je parle. Et donc, à ce compte-là, les sprinteurs qui ont beaucoup donné en début de saison classique et qui arrivent sur le Tour pour finir un peu leur saison, ça peut être très dur, ça peut compliquer de suite l'organisme. On a vu Mathieu Van Der Poel qui a fait beaucoup la saison de cyclocross, qui a fait beaucoup en début de saison dans les classiques, on l'a toujours vu. Et là, il enchaîne avec, même s'il a fait une coupure, il arrive au Tour de France. Et on a du mal à redémarrer. Tout simplement, c'est que l'état de fraîcheur compte énormément quand on dépasse les 35 degrés et on est en plein dedans aujourd'hui. Donc il y a des coureurs, à cause de la chaleur, il y a l'allumage qui fait poif, 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 poif.
Ouais. Ça dérape un peu, il y a des ratés. Et d'ailleurs, Christophe, Mathieu Van Der Poel, il n'est pas non plus étincelant. Non, hein.
Mathieu Van Der Poel, on l'attendait, comme le disait Maria, on l'attendait à Barcelone l'autre jour, et puis il a fait pchit lui aussi. Et il vient de réagir. Il dit : je n'ai pas atteint le niveau que j'espérais, je n'y peux rien, j'ai eu une bonne préparation. Parfois, il faut simplement être patient. La seule étape qui représentait vraiment une opportunité était celle remportée par Mats Pedersen. Il n'évoque même pas celle de Barcelone, où effectivement il y a eu la bagarre avec les mecs du classement général. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas Van Der Poel au top, alors que on l'a vu lors de la présentation des étapes, il est comme jamais quoi. Mais il lui manque un petit quelque chose.
Peut-être a-t-il laissé beaucoup de jus dans cette préparation finalement. Et
d'ailleurs l'année prochaine, il envisage de faire beaucoup moins de cyclocross. Ouais, parce que peut-être qu'avec l'âge, la double saison, ça commence à être difficile. Hein.
Tu le disais, Jérôme, tout à l'heure, avec Van Der Poel, c'est tout l'un. Ouais. Ou tout l'autre.
Sur le tour, surtout.
Oui, c'est vrai.
Sur le tour, Mathieu Van Der Poel, on sait que c'est pas la course de ses rêves. Lui, à l'inverse de beaucoup de coureurs, il dit : moi, je préfère faire 21 courses d'un jour qu'une course par étape de 21 jours. Et soit il vient et il cartonne tout, même sans gagner. Rappelez-vous le numéro qu'ils font à deux avec Ricard l'année dernière. Ouais. Ont pas gagné, mais ils passent à rien de gagner. Et sinon, quand ça va pas, ça va pas pour Mathieu Van Der Poel. Et souvent, je suis pas d'accord pour dire, par contre, que Philipsen gagne uniquement si Mathieu Van Der Poel est bien. Mais forcément, quand t'as un lead-out à la hauteur de Mathieu Van Der Poel, c'est quand même plus facile d'aller gagner. Quand l'un marche pas trop, l'autre souvent, et voilà, c'est
les frères, c'est moi.
Ça marche ensemble quand même. Même si Philipsen est capable de gagner sans Mathieu Van Der Poel, c'est quand même plus dur quand Mathieu Van Der Poel est pas au top. Et on l'a vu là, le lancer, il est bien placé, mais c'est pas le Mathieu Van Der Poel avec la giclette qui catapultait Philipsen.
Il le sort pas, et la dernière fois qu'il y a eu un sprint à Bordeaux, il l'a sorti et Philipsen a gagné quasiment facilement. Ce n'était pas le cas aujourd'hui et peut-être que ça vient aussi de là.
Eh bien, on verra demain la revanche entre les sprinteurs. Mais l'autre enseignement du jour, c'est que sans Baptiste Westhoffer, il ne se passe rien parce qu'une nouvelle fois, le coureur de l'équipe Lotto, le Français, est parti en promenade pendant une partie de l'après-midi. Alors, il a été accompagné aujourd'hui d'un coureur de l'équipe Cararoyal. J'ai envie de dire heureusement pour lui, il a eu quelques relais, mais ça pose quand même question. Les jours d'arrivée au sprint, ça va devenir vraiment, vraiment très ennuyeux. Richard, on a le sentiment quand même que dans tes années, toi, ça n'existait pas, ça, des journées sans échappée. Il y avait toujours au moins 3-4 équipes qui voulaient se montrer.
Ouais. On va dire qu'il y avait plusieurs équipes et il y avait plusieurs coureurs qui partaient à l'échappée et il y avait une lutte, c'est-à-dire que bon, comme là en ce moment, hein, il y a une lutte pour l'échappée. Bon, c'est un peu différent. Après, pour les coureurs aujourd'hui, ils ont démarré un tour difficile avec d'entrée, ils ont tapé dans le mur avec de la chaleur. Ils sont tous en train de se dire, mais il reste encore 2 semaines. Et ils sont tous à 36, 37 degrés sur le vélo.
Là, oui, mais depuis 2-3 ans, ça arrive quand même plus souvent, même sans la chaleur, Richard.
Ouais. Mais oui, ça, les mentalités changent, les tactiques changent. On se lance moins dans le combat. On est plus au millimètre, on va dire. Il y a des coureurs qui partent à deux, eux, ils ont envie d'enflammer la France. Et derrière, et ils sont les seuls. Donc, dommage qu'on n'en a pas 15 comme ça, parce que ça donnerait des étapes beaucoup plus animées. Mais dès qu'on va arriver dans des parcours un peu plus vallonnés, là, aujourd'hui, forcément, c'est tout plat. Les sprinteurs ont leur mot à dire, comme demain. Ils se disent, mais à quoi ça sert d'aller à part aller faire de la télé pour un partenaire, tout ça. Mais voilà, on s'économise et on se préserve pour notre... C'est sûr que nous, les suiveurs, journalistes, tout le monde, on s'ennuie un peu dans ces étapes-là. On s'excite juste dans la dernière demi-heure parce qu'il va y avoir le sprint. Mais tout au long de l'étape, c'est résumé à faire des kilomètres, manger, boire, récupérer. C'est des étapes comme ça. Mais le Tour de France a toujours été comme ça. Et il faut passer ces étapes qui sont destinées aux sprinteurs, aux rouleurs. Mais c'est vrai que à mon époque, il y a 15 ans, 20 ans même, ça bataillait beaucoup plus. Et des fois, les sprinteurs avaient du mal à aller chercher les échappées devant.
Ouais. En tout cas, il nous réjouit, Baptiste Westhoffer, parce qu'il se montre. En plus, c'est un personnage sympathique. On l'écoute. Et puis, Kevin Morand, qui nous a rejoint, va évoquer sa personnalité dans quelques instants. Baptiste Westhoffer.
Ouais, c'était encore une journée très, très bonne. Voilà, c'est le tour. Sourire toute la journée, des gens, des milliers de gens au bord de la route là, j'ai jamais vu autant de gens à Bordeaux. Tous les Bordelais sont là. J'espère que j'ai mérité des cannelés. Mais ouais, c'était une super journée pour moi, malheureusement. Voilà. Peloton, il laisse qu'une minute. Bon, c'est la loi du sport. C'est assez dommage. Voilà. Les échappées sont de plus en plus rares, alors c'est pas ça qui va inciter encore plus. Malheureusement, c'est peut-être en train de tuer. C'est un peu tuer mon métier, on va dire. Je sais pas si j'ai un métier ou mon caractère, on va dire. Mais bon, je baisse pas les bras. À deux, c'était vraiment intéressant. C'était mieux que tout seul. Surtout, il marchait vraiment bien. C'était un bon coureur avec moi. De la bonne farce sur le plat. On a essayé de jouer un peu par moment. Vu que le peloton nous laissait qu'une minute, on leur disait vous ne laissez qu'une minute, on va ralentir. Et du coup, ça a provoqué des attaques. On aurait espéré qu'il y ait un petit groupe qui nous rejoigne, et là, ça aurait été plus intéressant. C'est peut-être moi qui suis en train de faire des erreurs, je ne sais pas, je vais apprendre de mes erreurs. Peut-être que voilà, le tour, il faut peut-être en garder un peu plus, et c'est peut-être que tout le peloton a peut-être plus d'expérience que moi, il pense ça. Ouais.
Il y a ton DS qui nous a dit que tu avais une raison particulière de voir le bouquet de la combativité.
Ouais, mes parents sont là en plus, donc voilà, je pense que ma mère, elle va être contente d'avoir un joli bouquet, et moi, je suis content d'avoir un joli trophée encore.
Voilà, ça va être le roi des bouquets, Baptiste Westhoffer, peut-être quand il était jeune, lors de ses premières courses. Kevin, c'est une personnalité nature, quoi. On a plaisir à l'interviewer, à le rencontrer.
Oui, un coureur qu'on découvre sur son Tour de France. On découvre aussi un baroudeur forcené qui, après avoir tracté en vain devant la voiture balèze sur les étapes 2 et 3, son sprinter Arnaud Delis, et qui a fini par abandonner. Le Breton a fait 144 km seul, le nez dans le vent, mercredi. Et donc, après son échappée aujourd'hui, il a dépassé les 2200 kilomètres à l'avant cette saison. Ce soir, il est monté sur le podium avec Tadej Pogacar. Ils ont discuté quelques instants, tous les deux. Évidemment, c'est une occasion presque unique pour lui. Ce Finistérien de 26 ans, qui montre le coursier qui laisse sa personnalité alors qu'il découvre la grande boucle et même un grand tour de manière générale pour sa troisième saison en pro, sa deuxième chez Lotto Intermarché. Tous les matins, nous, on le voit au départ avec son bob aux couleurs de son équipe, ses lunettes rondes, son ton très naturel devant les micros. Il y a même une petite hype qui est en train de monter en fait autour de Baptiste Westhoffer. Le Breton communique beaucoup sur les réseaux. Pour nous, on l'a entendu, il est très bon client, comme on dit. Alors avant d'être 100% cycliste professionnel, ce qui est arrivé tard pour lui à 23 ans, Baptiste Westhoffer était ingénieur naval dans la Marine nationale, après avoir décroché un diplôme en génie climatique. Rien d'illogique hein, quand on a grandi comme lui entre le centre de voile de Port-la-Forêt et la base navale de Brest. Il a pratiqué le triathlon aussi, où son côté bourrin et son gabarit massif lui ont valu le surnom de sanglier, encore plus mérité pour celui qui est né à Fouesnant, réputé pour sa grande forêt. Surnom qu'il revendique, c'est un sanglier voyageur qui, à l'approche de l'hiver, après les dernières courses, préfère le bikepacking aux entraînements classiques. Il a parcouru 2500 km à travers la Thaïlande en novembre dernier, sacoche accrochée au vélo. En 2024, c'était 2300 km dans l'Ouest américain. Et en fin d'année, il envisage de partir de Hong Kong pour descendre jusqu'au Vietnam. Une façon de faire un bloc d'endurance avec un peu moins de monotonie qu'un stage en Espagne, m'expliquait-il ce matin. Une personnalité donc originale dans le peloton qui a remporté son premier succès en début de saison sur le Tour d'Oman.
Alors tu sais que la Port-la-Forêt, juste à côté, on appelle ça la vallée des fous, hein, avec Michel Desjoyeaux, etc., Jean Le Cam. Et là, on comprend un peu pourquoi il est là, parce que c'est un peu fou quand même de se lancer dans ces aventures-là. Mais ça nous plaît, Jérôme Pinault.
Il a fait, pour finir avec Baptiste, sa notoriété pour passer professionnel là-dessus. Moi, je l'ai eu au VCP Loudéac à l'époque. Il était dans la réserve de l'équipe professionnelle. Et je ne voyais pas et je n'ai pas détecté chez Baptiste un potentiel grand coureur parce que peu de tactique, il arrivait du triathlon, alors ouais. Ça bourrinait, mais à l'époque, il n'avait pas le moteur qu'il a à l'époque et c'était souvent le premier échappé dans les courses, mais il avait du mal à les finir et puis au fil du temps, nous, l'équipe a disparu, au fil du temps, plus ça allait, plus ses échappés allaient au bout et il a fini par gagner un paquet de courses, mais toujours de la même façon. Hein,
ça s'apprend le métier de coureur cycliste.
Bien sûr, il arrivait tard.
C'est pas la même chose, quand tu viens du cyclocross, c'est pas la même chose, donc il faut quelques années d'apprentissage.
Mais, oui. Après, deux exemples avec Tim Merlier.
Il est très difficile de transformer un coureur, par contre, de convertir un coureur. Alexis Goujard en est la parfaite illustration. Alexis, c'était l'homme de l'échappée au long cours, très fort sur certaines classiques, notamment, avec la capacité à passer les pavés, à aller dur et très fort sur les monts. Du jour où on a essayé d'en faire un coureur pour le finish, il n'y arrivait pas. Ouais. Parce qu'il y a tout un tas de bagages techniques qu'on oublie et qu'on perd et qu'on ne va pas acquérir quand on est toujours tout seul devant ou à deux.
Bon, j'imagine que tu lui mets un carton vert aujourd'hui, bien évidemment, sûr, ça nous a plu. Mais en revanche, est-ce que tu mets un carton orange ou un carton rouge au reste du peloton qui ne veut pas sortir? Rendez-nous les Jackie Durand, les Thierry Marie et les grands aventuriers, comme ça, qui nous font aussi le spectacle, même les jours où il y a un sprint à l'arrivée qui est promis, parce que de temps en temps, ça peut marcher aussi.
Ouais, les Alexis Goujard. Alors, je ne vais pas mettre un rouge parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de fatigue et beaucoup de chaleur. Et un tour incroyable et on est au lendemain d'une étape où notre champion de France a fini en pleurs parce qu'il a passé la journée la plus galère de son Tour de France et sur un Tour de France. Mais je vais mettre un carton orange pour aller leur dire à tous ces coureurs qui vont de toute façon finir à Paris s'ils sont pas malades ou s'ils sont pas blessés, parce que même si le tour est dur, quand on n'est pas malade et pas blessé, on va au bout. Et puis leur dire aussi que c'est la chance de leur vie peut-être de se montrer. Certains font partie d'un collectif avec un sprinter, mais un sprinter de parfois de seconde zone. On commence à établir la hiérarchie des sprinteurs et toutes les équipes, même si elles ont un sprint dans leur rang, elles n'ont pas besoin des 8 coureurs pour emmener le sprint. Il y a beaucoup d'équipes comme ça. Carrarol joue le jeu, on les voit souvent dans les échappées. Autour de Baptiste Westhoffer, il y avait Delis, il s'est réinventé. Je pense à l'équipe UnoX qui essaye de se réinventer. Chez Quickstep, on n'a pas que des coureurs qui vont vite, mais on a fait appel aujourd'hui à Valentin pour aller chercher les bidons. Est-ce que demain, on aura besoin de tout le monde? J'en suis pas sûr. On a l'équipe Total Energy qui essaye d'aller dans les échappées, mais c'est difficile quand c'est difficile. C'est trop dur quand c'est montagneux. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains garçons, le petit Brouillard, on ne sait pas qu'il est autour, par exemple. On ne l'a pas vu pour l'instant. On a aussi l'équipe Cofidis, on les voit, ils sont là à 7 bornes. On l'a dit dans le direct, on ne va pas s'en cacher. C'est plus facile d'être là à 7 bornes que d'être là à 2 bornes. D'avoir un Cofidis dans les échappées au long cours comme aujourd'hui, peut-être ça va pas changer le cours de l'échappée, mais ça peut lui donner une chance. Vous savez, moi j'ai une statistique assez personnelle. On me dit, t'as fait combien de tours? 13. Tu les as tous finis? Oui. Mais si je pouvais en effacer 2-3 au profit d'une échappée victorieuse, mais je la change de suite. Finir le tour, ça ne fait pas de vous un immense champion. C'est bien de finir le tour, mais c'est mieux d'être acteur principal de la pièce à laquelle dans laquelle on joue. Et là, pour le coup, bah, des acteurs principaux, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, tu l'as dit, il y a une hype qui monte autour de Baptiste Verstroffer. Et des Baptiste Verstroffer, je pense qu'il y en a au moins 30 ou 40 dans le peloton.
Et puis, il y a peut-être des coureurs qui vont trouver, ou des spectateurs, ou des auditeurs qui vont trouver que finalement, ça ne sert à rien. Alors, pour terminer sur ce thème, je vais vous demander de mettre une note à Baptiste Verstroffer. Jérôme Coppel.
Oh bah c'est
sur 20.
Ouais, 19 encore.
Ah ouais, toi t'es un bon prof, toi tu notes là.
Si lui tu lui mets pas ça, les autres tu finis en négatif après avec les autres.
Ah non, mais il a pas gagné quoi.
Bah voilà, c'est pour ça qu'il a 19. Qu'est-ce qu'il a mal fait sinon? Il a pris l'échappée, il a bien géré le tempo par rapport au peloton, il le dit lui-même, on a joué au chat et à la souris, il s'est battu jusqu'au bout, il est plus combatif, je vois pas ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui.
C'est gentil. Jérôme Pinault.
Ouais, j'aurais dit, je mettrais 17, parce qu'il manque 3 petits points pour moi. Il discute pas assez avec les gars au départ, je pense. Il a pas gagné, et peut-être qu'au moment où derrière ça visse, il doit complètement dévisser pour mettre le peloton dans la mouise et le laisser repartir. Ils ont roulé trop vite pendant un petit moment, ce qui a fait que la moyenne est très élevée.
Ils sont revenus à 25 secondes.
Ouais, et c'est revenu. Mais voilà, allez, c'est 3 petits points. Mais sinon, chapeau à lui. Si on n'a pas s'il n'ose pas, il se pose pas la question de demain, et tant mieux. Mais s'il n'ose pas, c'est pas la 22e étape du tour qu'il va briller. Ça sera fini.
Richard Viron, tu lui mets combien à Baptiste Verstroffer aujourd'hui?
Ouais, je le mettrais 17. Mais je rejoins Jérôme Pinault. En disant, quand on est attaquant comme Baptiste, il faut qu'il aille chercher dans le peloton le matin des courageux et partir à plusieurs. Parce que, un, c'est plus sympa. Deux, on est beaucoup plus fort à plusieurs. Et ça peut rigoler sur un malentendu. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait qu'il aille inciter d'autres coureurs. Parce qu'il y en a qui n'osent pas. Hein. Il y en a qui disent non, mais je ne vais pas partir, non. Ou alors non, je vais. Si j'attaque, je risque d'abandonner le lendemain. Voilà. Il y a beaucoup de coureurs aussi qui comptent et qui se disent ah non, mais si je me mets dans le rouge, je vais sauter, je vais abandonner. Donc, ça, il faut se l'enlever dans le cerveau. Hein, parce que si moi, j'aurais dû à chaque fois, quand j'attaquais, me dire ah non, je vais sauter le lendemain, je n'aurais jamais attaqué. Donc, il faut être un peu chevaleresque. Et on est sur le Tour de France. Franchement, il y en a tant qui, des milliers de personnes, des sportifs qui rêveraient d'être à leur place sur le Tour. Le Tour est pour nous, la route est pour nous. Allez, faites-vous plaisir.
On est à la veille du deuxième week-end de ce Tour de France. Dans quelques instants, je vous propose de débattre pendant quelques minutes sur les Français, ceux que vous aviez pronostiqués, ceux qui vous déçoivent, ceux pour lesquels vous avez beaucoup d'ambition. On se retrouve dans quelques instants après une pause dans l'After Tour.
RMC, 19h-20h, l'After Tour, Pierre-Yves Leroux.
On va partir au sprint, nous aussi, pour la fin de cet After Tour et parler des Français. Allez, je vous en donne quelques-uns, comme ça, en vrac. Ils sont 30, je ne vais pas tous vous les citer, mais ceux pour lesquels on a quand même un petit peu d'ambition. Alors, il y aura Paul Sexas, on peut commencer par lui si vous voulez. Je vous cite Romain Grégoire, Lenny Martinez, Kevin Vauclin, Alex Baudin, Valentin Paré-Peintre, Jordan Jégat, Julien Alaphilippe. Voilà, on fait un petit package. Et messieurs, on commence par Paul Sexas. Où il en est, selon vous, avant ce premier week-end? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Il est dans ce que vous imaginiez? Il a quand même pas mal de retard. On aurait pu espérer peut-être qu'il soit un peu plus proche d'un Tadej Pogacar avant ce deuxième week-end. Je vois Jérôme Coppel qui rigole. T'as l'impression que je dresse un petit peu déjà le chemin de la réponse?
Non, pas du tout. Ma réponse, je l'ai dans ma tête. Moi, il ne me déçoit pas du tout. Il répond plus que bien à mes attentes. Non, je souris quand tu dis on espérait qu'il ait moins de retard sur Tadej Pogacar. Mais qui n'a pas de retard sur Tadej Pogacar? Voilà, il a assommé tout le monde. Et Paul Sexas, finalement, à part le chrono par équipe où il a perdu du temps, sinon il a quasiment pas perdu de temps. Il fait tout à la perfection. Même l'étape d'hier dans son groupe, ils arrivent qu'à 19 secondes de Jonas Vingegaard. Pour moi, c'est mention très très bien pour l'instant pour Paul Sexas.
Pour toi, Jérôme?
Pareil, dans la même galaxie. Il est tout près de celui qu'on espère qu'il va pouvoir battre ou positionner en tout cas sur le podium. On avait peut-être un peu plus compté sur un Del Toro équipier et s'effacer du classement général. Ce ne sera pas le cas, puisque avec le numéro d'hier, Tadej Pogacar va garder Del Toro dans le classement. Donc, mention très bien pour Paul Sexas pour le moment dans son début de tour.
Christophe ?
Mention bien. Presque très bien, comme mon fils au brevet du collège. Ah. Il lui manque un demi-point pour moi. Il lui manque un demi-point pour avoir la mention très bien. Ce demi-point, c'est en fait, je pense que puisque s'attaquer à Pogacar, aujourd'hui, sa cible, sa target, ça doit être Del Toro. Et pour l'instant, Del Toro fait un meilleur tour que lui. On va toujours les comparer. Ils sont de la même génération. Del Toro a été battu par Sexas dans l'Estrade Bianche. Là, on s'attendait peut-être à ce que Paul soit meilleur que Del Toro jusqu'à présent. C'est pas le cas. Donc voilà, pour l'instant, mention très bien s'il arrive à battre Del Toro.
Richard, sur Paul Sexas, tu es sur cette ligne aussi plutôt satisfait. Et puis derrière, dis-nous, qui sont les Français qui te plaisent pour l'instant après cette première semaine, ceux qui t'inquiètent, ceux qui te déçoivent ?
Donc pour parler de Paul Sexas, moi je crois que c'est une mention très bien. Bon Tour de France et il aurait été meilleur. S'il ne serait pas pris cette chute, on va dire, autour d'Auvergne. Donc, franchement, j'étais très inquiet quand même après la chute. Et même s'il était compétent, j'ai dit ça va être quand même compliqué la première semaine. Et par rapport à tout ça, je crois qu'il s'en est très bien sorti et que la deuxième semaine du tour, il va rien se passer avec les favoris. Hein. Ils vont manger, boire, ils vont grossir. Par contre, la dernière semaine pour Sexas. Là, ça va être, à mon avis, un vrai duel avec Del Toro et tous les autres. Et là, je pense qu'on l'attend. Si après, pour les autres, je suis déçu, mais je crois savoir pourquoi. C'est la chaleur concernant le champion de France, Romain Grégoire. Je pense que Romain Grégoire, je l'attendais vraiment. Il a démarré le tour comme il fallait. Mais malheureusement, je pense qu'il s'est éteint tout seul avec les conditions climatiques et ça lui a fait très mal. Après, une autre personne, j'irais Kevin Vauclin. Franchement, je l'attendais, je le sentais vraiment bien. Et je ne sais pas. Il est en train de passer au travers. Est-ce que c'est à cause aussi de la chaleur ? Mais pour moi, le tour qu'il a fait l'année passée, le début des saisons qu'il a fait cette année, je le voyais, j'ai dit, putain, il va être sur le tour avec la nouvelle équipe Ineos. Ça va être, ça va rendre. Et bien là, non, ça ne fait pas grand-chose. Et pour parler de Lenny Martinez, lui, par contre, ça, il dort. C'est en fait, lui, il est dans l'ombre et il attend. Il est au millimètre. Je pense que lui, c'est celui qui va dégoupiller dans pas longtemps, bien sûr dans la troisième semaine, et qui risque de nous faire un beau Tour de France. Et il est en train de ronger son frein, on va dire. Donc ça, je suis très persuadé. Je suis persuadé en tout cas qu'il va faire quelque chose. Il y a un coureur j'aurais aimé tant le voir à l'avant et qui nous a fait tant rêver ces dernières années, c'est Julien Alaphilippe. Je regarde quand les montées s'élèvent, il y a encore 60 coureurs, ils s'écartent et là je dis waouh, et ça me fait mal parce que Julien il doit souffrir et voilà, donc je suis déçu pour lui et pour son entourage.
Ouais, c'est vrai que Julien Alaphilippe, ce qu'on voit, c'est un peu triste, Jérôme. Il y a aussi un autre coureur qu'on peut rajouter pour l'instant, c'est Jordan Gégat, hein, qui avait été le deuxième Français derrière Kevin Vauclin au classement général l'année dernière. Donc on espère peut-être que ça va être mieux dans les jours qui viennent.
Ouais, il a essayé plusieurs fois déjà. Hein, Jordan, il s'est loupé. Hein, il a pas la canne, il n'est pas en jambes. Pour l'instant, il a pas le niveau pour exister dans les étapes qui pourraient lui convenir, c'est-à-dire avec les grands, les étapes difficiles. Vous avez fait le tour des Français. Moi, je trouve que pour Lenny Martinez, la bonne nouvelle pour Lenny Martinez, c'est que Paul Sexas est en bonne forme. Donc, on va beaucoup parler de Paul et lui, on va le laisser tranquille. Et lui, il va profiter de ça. On a oublié un coureur. C'est Alex Baudin, quand même, hein, qui est en train de faire un très, très beau début de Tour de France. Il a été présent à l'avant dans les Pyrénées. Il a pris le maillot à pois. Et je suis sûr qu'on reverra Alex devant parce que c'est un garçon qui est... tout terrain, il sait grimper, il sait aussi être très bon lorsque les étapes sont à peu près difficiles et celle d'après-demain sera aussi difficile, casse-patte. Donc voilà, mention spéciale très bien à Alex Baudin. Après, on est déçu par les autres. Pour l'instant, on n'a pas vu de Français nous faire vibrer à part Lenny et Paul.
Jérôme Coppel, il y a un autre garçon qu'on n'a pas cité, je crois, Valentin Paré-Peintre.
Valentin Paré-Pinte, il n'était pas encore vraiment sur son terrain. L'étape d'hier, il a pris les points, enfin essayé de prendre les points avec Lenny Martinez en haut du col d'Aspin. Et ensuite, lui, il vise une étape. Donc ensuite, il a bien compris qu'à la pédale, ça n'allait pas marcher.
Il s'est relevé. Hein.
Voilà, il s'est relevé, bien sûr. Donc ça, c'est très bien d'ailleurs pour lui, parce que ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'il nous refasse un numéro comme au Mont Ventoux. Donc ça arrivera plutôt peut-être dans la dernière semaine. Moi, je suis plutôt dans ceux que vous avez cités. Je suis plutôt inquiet, très inquiet, c'est peut-être un peu fort, mais inquiet pour Romain Grégoire. D'une, physiquement je l'attendais un peu mieux que ça, et l'image d'hier où il est en pleurs à l'arrivée, c'est quand même, quand t'es champion de France, je dis pas parce que t'es champion de France t'as pas le droit de pleurer, c'est pas ça, mais c'est signe quand même de la difficulté de l'étape d'hier. Dire Romain Grégoire, il a roulé sur tout le monde au championnat de France avec son équipe, c'est que les championnats de France, d'accord, mais il a gagné une étape au Tour de Suisse, je veux dire, il était très très en forme. Quand tu te fais taper dessus comme ça et qu'à la sixième étape tu pleures parce que tu t'es fait passer dessus par un camion sur une étape, qu'il t'en reste encore 15, ben mentalement, le Tour c'est en grande partie physique bien sûr, mais mental, faut que le mental suive. Si t'as les jambes mais que le mental n'y est plus, c'est fini, tu vas plus rien faire sur le Tour et ça va devenir une galère. Et moi, je suis même pas déçu de ses performances. Oui, je l'attendais mieux à Barcelone et il a encore des jours à venir, mais j'espère que mentalement il va réussir à switcher, parce que lui, son profil normalement, et surtout avec les écarts que Pogacar a fait, normalement il va avoir des opportunités.
Ouais, c'est le poids de son maillot, Christophe, qui il le dit en interview hier matin, ce matin au départ, ça m'a rendu très triste, et le poids de ce maillot a été une vraie galère toute la journée, parce qu'il s'attendait évidemment à être devant, et le champion de France, on le voit dans un gros pétrole.
Mais en fait non, il pèse lourd ce maillot.
Mais ça, il faut, alors c'est facile à dire, mais il faut arrêter avec ça. Je veux dire, le maillot, il l'a gagné, on va pas lui en vouloir s'il termine à 20 minutes un jour. Tant qu'il se fait plaisir, le maillot, ça ne doit pas être un poids. On avait ça avant avec les champions du monde, la malédiction.
La malédiction. Depuis qu'il y a Pogacar, il n'y a plus de malédiction.
Oui, mais alors moi, si j'avais pu être champion du monde et pas avancer un caramel l'année d'après, j'en aurais rien eu à cirer. Ah bah oui. J'ai été champion du monde. Mmh. Bah c'est pareil, tu es champion de France, c'était ton rêve.
Après,
donc, tu l'as maintenant, profites-en.
Il y a eu des années où tu n'avais pas du tout de maillot et tu n'avançais pas un caramel l'année d'après.
Exactement.
Je voulais juste dire un truc. On s'est beaucoup gargarisé des résultats des coureurs français depuis le début de la saison. C'est vrai qu'ils ont réalisé jusqu'au mois de juin une saison exceptionnelle. Mais là,
meilleur, on voit le tour, hein.
Que dans le, quand tu arrives dans le Tour de France, c'est quand même un gap au-dessus. Et mis à part Paul qui est dans le coup, mais qui n'est pas aussi dominant qu'il l'a été dans les courses d'avant Tour de France, on rétrograde quand même d'un niveau, voire de deux niveaux. Alors, le tour n'est pas fini. Il y a eu une grosse bagarre pour le général jusqu'à présent. On n'a pas Paul Magnier dans les sprints, donc évidemment, ça t'enlève une sacrée carte. Mais j'espère mieux des Français dans les deux semaines qui viennent. Ne
nous porte pas la poisse, ça va arriver. Ça va arriver.
La poisse.
Mais c'est vrai. On espère qu'ils vont être un petit peu plus flamboyants. C'est l'heure pour retrouver nos consultants et pour les auditeurs, pour pouvoir échanger avec Jérôme Coppel, avec Jérôme Pinault, avec Richard Virenc. Et on a Abdel qui est en notre compagnie. Bonsoir Abdel.
Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir au Jérôme. Abdel. Et bonsoir à tout le monde. Et donc moi, j'avais une question pour vous. Parce que c'est vrai qu'on se focalise un peu sur Paul Sexas, et c'est normal, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que Lenny Martinez soit un peu justement dans son ombre? Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour lui?
Qu'est-ce que tu en penses, Richard?
Oui, mais ça l'arrange, hein. Je pense que Lenny Martinez, pour le connaître un tout petit peu, et de l'avoir vu courir l'année passée dans le Tour de France, il est rentré plein pot dans le Tour l'année passée, aller chercher le maillot à poids, et il a fini le Tour sur les genoux et il n'a pas pu le ramener à Paris. Cette année, il a changé d'équipe et là, il a pris une autre dimension et il arrive sur le Tour avec... Il a très faim et il court au millimètre. On l'a vu hier dans le final, dans le Tourmalet, il était là, mais toujours un peu en retrait. Et il laisse faire. Il va aller comme ça, je pense, jusqu'à la dernière semaine de ce Tour. Et il va décider s'il fait le général. Mais pour Lenny, c'est, on va dire, la chose parfaite qui peut arriver pour lui. Pas de pression, il est devant. Et il va arriver au dernier moment pour faire un peu un coup de magie. Mais je crois qu'il est content de la situation. Et en tout cas, c'est parfait pour lui, en tout cas.
Est-ce que vous pensez que grâce à ça, il peut faire le podium? Moi, honnêtement, j'ai plus de... Ben voilà, j'y crois plus en lui. Paul Sexas, j'ai l'impression qu'il est surveillé comme le lait sur le feu. Et peut-être que Martinez pourrait... un peu se faufiler là-dedans. Et peut-être que moi, je suis d'accord que la dernière semaine, il peut jouer quelque chose. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
Oui, bon, moi,
Jérôme,
je pense que...
Ouais, vas-y, Richard.
Ouais, non, mais vous savez, quand vous regardez le parcours de ce tour de cette année, les 4-5 derniers jours, tous les jours, il peut se passer vraiment un truc de malade. Hein. Un coureur qui ose, qui attaque de loin, qui prend des minutes, après les leaders se regardent, il va prendre 4, 5, 6, 7 minutes, ça peut être Martinez, parce qu'il dit non, mais moi je fais le maillot à poids, vous inquiétez pas, il va faire ses points, et d'un coup il se retrouve à revenir au classement général et de faire un podium. Donc tout est possible pour Lenny Martinez, la seule chose, il faut qu'il ait vraiment les jambes la dernière semaine.
Jérôme Pinault, Lenny Martinez derrière Paul Sexas, devant Paul Sexas au classement général sur les champs.
Ça pourrait faire une très bonne question moyenne, ça, pour le SMS. Quelle est la plus forte probabilité? Non, il y a un contre-la-montre sur ce Tour de France quand même, contre-la-montre individuel, qui est la spécialité de Paul Sexas. Et puis Richard, je ne te rejoins pas sur le fait que la dernière semaine. On nous vend beaucoup la dernière semaine, c'est vrai, elle va être très difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, 6 ans? Il y a toujours des dernières semaines difficiles, et c'est statu quo. Et finalement, il y a très très peu de changements au classement général. Il y a beaucoup de choses établies dans les deux premières, sur des étapes parfois de moyenne montagne, où là on laisse partir une échappée, il y a des gens qui se replacent. Mais Richard, tu connais le tour. La dernière semaine, les costauds sont devant, les moyens sont au milieu et les plus nuls sont derrière. Et ça, ça change jamais. Et à ce petit jeu-là, je pense que Lenny, en plus, va devoir faire un choix. Et si j'étais lui, quand je vois le parcours, quand je vois le contre-la-montre qu'il y aura, je préférerais faire focus sur un potentiel maillot à poids plutôt que de tout miser sur un classement général, parce que le chrono, c'est pas son truc, et en dernière semaine, il y aura toujours des mecs pour rouler sur lui s'il essaye de prendre une échappée.
Ouais, Jérôme Coppel.
C'est ça, c'est jamais bon de courir deux lièvres à la fois. C'est dur de décider aussi pour lui, mais en fait, faudrait qu'on sache le plan de carrière de Lenny Martinez. Est-ce que vraiment, un jour, il a l'ambition de faire un top 5 ou de monter sur le podium du Tour de France? Si ça, c'est vraiment son ambition, bah, faut qu'il s'accroche. Faut qu'il regarde cette année, il est bien placé, il a bien passé les premières étapes. Faut qu'il s'accroche pour voir jusqu'où il peut aller. Par contre, si dans les 2, 3, 4 ans à venir, son ambition n'est pas forcément le classement général, mais de rester dans son registre chasseur d'étapes, éventuellement maillot à poids, là il doit se relever. Et en plus, si tu te relèves, il garde deux options ouvertes, et le maillot à poids et l'opportunité d'aller gagner une étape. Là il est trop proche il peut rien faire, ni le maillot à poids ni essayer d'aller gagner une étape. Donc pour l'instant, la situation, elle n'est pas facile pour Lenny,
sachant qu'il a une culture dans cette famille, avec le papa qui est passionné de vélo, le grand-père a porté le maillot à poids et gagné le maillot à poids. Il est, Richard le sait, des origines très proches du Var, même si la famille est de Nevers. Le papa était dans le Var très longtemps. Lenny habite là-bas aussi. Maintenant, il est en Andorre, mais il a grandi dans ce coin-là. Il y a de l'héritage, il y a du Martinez et il y a du Virenc. Et lui, c'est ce maillot qui le fait rêver. Et tant qu'il n'a pas accompli ce rêve, je pense qu'il ne passera pas à autre chose. Il aura toujours une attirance, et Lenny, toujours envie de faire...
Lenny, il a ce truc que Richard avait aussi, c'est je n'ai pas l'impression qu'il soit habité par le classement général. Le classement général, c'est chiant. Tu dois être tous les jours devant. Tu peux pas prendre des échappées. Tu dois atteindre. Mais j'ai vécu ça à un niveau beaucoup plus faible. Mais t'es toujours dans l'attente. Et quand t'arrives sur les étapes, quand t'es pas capable de jouer le podium, tu t'accroches ton slibard à celui de devant et t'essayes de pas perdre de temps. Et en fait, tu te fais taper dessus un peu tous les jours. Et lui, il est comme Richard. Il a besoin du public pour lui donner de l'énergie. Et pour ça, rien de mieux que le maillot à poids.
On a eu une première réponse hier, finalement. Parce que hier, si tu joues le classement général, t'attaques pas à deux bornes du sommet de l'Aspin pour aller faire des points.
Ouais, mais je pense qu'il était sûr de sauter, à mon avis. Et il a été faire les points. Et il s'est dit, ça va aller tellement vite que dans le...
Je vais pas pouvoir...
Dans le tour de Malais, je vais pas passer. Il a basculé. Ensuite, il s'est accroché. Et il a dit, il était...
Il a fini râpé, hein.
Ouais, j'ai pas pu prendre un relais. C'est pas que j'ai ratonné, c'est que j'étais à bloc. J'étais content d'être là.
Merci Abdel, voilà, tu as des éléments de réponse, on va surveiller attentivement, on va voir si nos spécialistes t'ont donné le bon chemin dans les jours à venir.
C'est clair, en tout cas merci à toi, et puis à bientôt pour une autre intervention. Là je suis le tour comme jamais, franchement le fait qu'il y ait Paul Sexas, ça remet un petit coup de boost là, parce que c'est vrai que Pogacar, il nous avait un peu mis les morales à zéro. Une telle domination, et le fait qu'il y ait notre petit français là, ça redonne du piment.
Ouais, voilà. Ben exactement. On espère que cette deuxième semaine qui arrive, et le week-end déjà, avec cette étape demain entre Périgueux et Bergerac, vont permettre du spectacle. Ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci Abdel. Merci à tous nos consultants, Richard Virenque, Jérôme Pineau, Jérôme Coppel. Merci Christophe Cessieux également. Merci à toute l'équipe de l'After Tour. Et on, bien sûr, vous retrouvez l'émission chaque jour sur la chaîne de podcast du peloton RMC pour débriefer chaque étape, l'application RMC Sport 100% route également, et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux, on vous montrera les coulisses, on vous présentera chaque étape. À demain.
RMC, l'After Tour.